Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten sans flamme.
Multiplex.
Le multiplex Ligue 1, la 22e journée en détail avec, non pas des buts, mais des infos de nos correspondants.
Tenez bien le volant, quand t'entends ça, t'as envie de lâcher le volant.
Edouard G est avec nous à Lyon, salut Edouard.
Salut à tous.
3 Lyon, demain 19h
pour toi. Le rôle est de retour.
Maxime Tilliette sur la Côte d'Azur, salut Maxime.
Salut tout le monde, bonsoir les amis.
Clermont-Monaco au programme pour toi et le gros Marseille-Nice de dimanche soir. Jean Baumel dans le Nord, salut Djibo.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, capitaine Lionel, bonsoir à tous.
Rennes-Lille, autre affiche du week-end pour toi et Lens qui a un déplacement à Brest. Et puis Xavier Grimaud dans l'Ouest, salut Xavier.
Salut Xavier.
Salut messieurs, salut à tous.
On va parler de Rennes, le Rennes aux deux visages qui va peut-être enchaîner une nouvelle victoire à domicile, une série incroyable avec toi. Mais on va débuter par Lyon. Êtes-vous déçu du mercato lyonnais? On va en débattre, Edouard, dans une seconde parce que les recrues étaient présentées aujourd'hui. Et à cette occasion, Jean-Michel Aulas a répondu aux questions des journalistes, notamment sur ses relations avec Juninho. On se souvient de sa sortie fracassante après Ajaccio. Ma seule erreur de management depuis que je suis à Lyon, c'est d'avoir donné les clés à Juninho. Bah, aujourd'hui, il était un peu plus détendu, le président Jean-Michel Aulas.
Moi, Juninho, je lui ai souhaité un joyeux Noël, je lui ai souhaité une bonne fête pour lui, sa famille, etc. Il est le bienvenu, qu'il vienne, qu'on déjeune ensemble, que même à RMC, RMC veut être le parrain des retrouvailles, il n'y a aucun problème. On n'enlèvera jamais à Juni ce qu'il a été, un très grand joueur.
Voilà, Jérôme. Jean-Michel Aulas te le demande solennellement, soit le parrain des retrouvailles.
Ouais, bon, moi je veux bien, il y a une seule condition déjà.
C'est quoi?
Que Jean-Michel Aulas appelle Juninho et arrive à déjà s'expliquer, à s'excuser de ses propos qui sont dépassés certainement sa pensée, mais qui ont fait mal, je pense, à Juni et à beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais. Là, pour preuve, c'est que j'espère que c'est pas par rapport à la réaction du public sur le dernier match contre Brest, quand on entend des Juninho avec des banderoles et tout ça. J'espère juste que Jean-Michel Aulas essaie pas d'atténuer ça en se disant oh là là, je me suis peut-être mis une partie du public à dos. C'est tout, c'est non, franc, c'est honnête, et que si c'est ça, bah appelle Juni, régler déjà ce problème entre vous, et puis après si je peux être le parrain de tout ça, ces retrouvailles, ça serait magnifique.
Quoi, le nombre de personnes qui se réconcilient dans Rotten sans flamme.
Non, c'est pas fait. Par contre, blague à part, je sais pas ce qu'en pensent Lionel et Jean-Michel, mais moi je suis triste de voir qu'un président historique comme Jean-Michel Aulas et son meilleur joueur de tous les temps à l'Olympique Lyonnais se chope comme ça et puis ait des discours assez durs l'un envers l'autre, quoi. C'est tout.
Et lui-même se tacle quand même à la fin. Ces derniers mots, Juni restera, aura été un grand joueur. Basta. Ça veut dire en tant que joueur, le reste.
Je pense pas, vu la conf de presse.
Tu connais Jean-Michel?
Non, Lionel,
c'était un tac. Pour moi, je le prends comme un tac.
Lionel, j'ai écouté la conf de presse. Franchement, Jean-Michel Aulas avait l'air honnête et très détendu.
Voyons ce qu'en pensait Edouard, qui était sur place.
Aujourd'hui, j'ai senti un Jean-Michel Aulas. La conférence de presse a duré 1h28, pour être précis. Moi, j'ai trouvé offensif, énergique, souriant, surtout conscient de la réalité, plutôt humoriste, qui n'a jamais fui ses responsabilités, et puis bienveillant. Franchement, il y a pas de calcul dans ce qu'il dit par rapport à Juninho, parce que en plus, pour vous donner c'est un confrère, Razik Brik, pour ne pas le citer, d'Olympique Lyonnais, qui a posé cette question. C'était la dernière. Il a parlé quelque part vraiment avec son cœur sur cette affaire. Il a vraiment envie de que ça se passe bien.
Jean-Michel, nous écoutes tout le temps. Je sais. On va régler la situation.
Vite fait, Lionel, oui.
Ouais, je demande à Doudou, alors pourquoi il a parlé de Juni qu'en tant que joueur, il aurait pu rajouter, ça a été un très grand joueur et un très bon directeur sportif. Ah bah non. Vu qu'il était dans la bienveillance. Ah bah ouais.
Arrête. Oui, mais il peut pas se déjuger sur un truc qu'il a dit il y a trois jours.
On est d'accord, Jérôme.
Bon, parlons du mercato, puisque donc les recrues étaient présentées. Êtes-vous déçu par le mercato lyonnais? Rappelle-nous les grandes lignes, Edouard.
Alors, les arrivées, Dayan Lovren, Jefinho de Botafogo et donc aussi Amin Sarr d'Erenven dans une opération régénération. Six départs, le dernier en date aujourd'hui, c'est Damien Da Silva qui part pour l'Australie. Et puis, il y a les pistes évaporées au milieu de terrain. Alors, pour avoir une bonne lecture, je vous demande juste 40 secondes de concentration pour des éléments factuels qui sont toutes mes notes compilées au mois de janvier. Et puis aussi, ce qui a été dit en conférence de presse aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Alors, la demande exacte, bien évidemment, au sujet du milieu défensif, le fameux La demande exacte, donc, au niveau du recrutement, c'est un défenseur central dès novembre. Dayan Lovren arrive le 2 janvier. Le souhait du 6 date du 10 janvier. C'est donc pas il y a 6 mois. Ben, Bruno Chirou, à ce moment-là, travaille des pistes. Parmi elles, il y a celle que lui glisse John Textor de ce João Gomes, un Brésilien. Bruno Chirou se déplace au Brésil pour finaliser. Et là, il apprend que le joueur avait donné son accord oral à un club anglais, lequel ne veut pas revenir sur sa parole. Donc, piste abandonnée. Au même moment, il y a Elias Skiri qui est dans les radars également. Or, sa femme accouche plus tôt que prévu et il ne se voit pas déménager de Cologne au même moment. La piste est abandonnée. Tout cela nous amène dans les dernières semaines, dans la dernière semaine où les noms se multiplient, dont celle qui mène à Paté 6 et là, problème de loyauté des dirigeants de Rayo Vallecano. Alors, en même temps, dans ce calendrier condensé, il faut gérer l'exfiltration de Carl Tocco et Cambi, pris en grippe par les supporters, et puis les mutations de départ de Malo Gusto. Voilà pour les éléments factuels de ce mercato du mois de janvier en termes de date. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête.
Merci Edouard pour les précisions. Jérôme, il est réussi ce mercato ?
Non, réussi, non, il n'est pas réussi. Jean-Michel Aulas nous avait dit avant le mercato qu'ils allaient dépenser de l'argent pour renforcer cette équipe. Dire, tu prends des joueurs, j'espère pour Lyon que ça va se concrétiser en bonne recrue, mais il y a tellement de points d'interrogation sur toutes les recrues qui sont arrivées, même Lovren, il est en fin de parcours. Sinon, s'il était pas en fin de parcours, il serait jamais à Lyon. Hein, il serait resté dans un club très très ambitieux sur la scène européenne, et il en faisait partie dans tous les cas. Et puis les deux autres, c'est des paris. On parlait hier de Sarr qui vient c'est un jeune joueur qui vient du Pays-Bas, mais il jouait dans une équipe très moyenne des Pays-Bas. Donc ça vaut pas plus que la Ligue 2, ça. Hein, ce niveau-là. Donc, franchement, je ne sais pas comment il va s'adapter à Lyon, dans une équipe qui est en difficulté. Et puis, le Brésilien, Jefinho, je suis pas sûr qu'en termes de stats. J'ai vu une stat passer, alors je ne sais pas si. Je ne suis pas allé la vérifier vraiment, je l'ai vu passer. Il paraît que c'est le joueur le plus maladroit du championnat, en termes de stats, du championnat brésilien. Alors, écoute, j'aime pas les stats, mais quand même.
Oui, mais je l'ai vu passer cette stat.
Ah, tu l'as vu aussi, Jean-Michel?
Jérôme, ouais. J'ai vu passer cette stat. Mais moi, ce qui m'inquiète là-dessus, c'est que je ne pense pas que Lovren bouleverse le public lyonnais. Mais je suis très inquiet quand je vois que le directeur sportif de l'Olympique lyonnais se déplace au Brésil sur des informations qu'il tient de John Textor. Là, je commence
Jean-Michel, je te coupe deux secondes. Mais Edouard, il a pas dit directeur sportif, il a dit recruteur sur Bruno Chéroux, c'est
oui,
vrai
non,
ça?
Non, il n'y a pas de directeur sportif. Il est chef du recrutement. Voilà.
Recruteur, et qu'il se déplace sur les informations et les indications de John Textor qui a donc fait venir ce Jefinho parce qu'il était
dans le même club.
Mais Botafogo. Parce qu'il appartient, parce que Botafogo appartient à Textor, non, je crois pas.
Oui, c'est ça, bien sûr,
c'est ça.
Ouais.
Textor, ouais.
Mais on est, et c'est vrai que cette stat, si elle est confirmée, est quand même très inquiétante pour l'efficacité de l'attaque lyonnaise. Enfin,
Oui.
Mais de toute façon, je ne suis qu'à moitié surpris de cette stat, parce que honnêtement, Jefinho, à moins que j'ai eu un coma,
non, t'en as pas eu.
Ces
personne
dernières semaines, je ne connais pas Jefinho. Oui.
Lionel, est-ce que c'est
Robinho, Ronaldinho,
oui,
Coutinho, mais pas Jefinho.
Lionel, est-ce que c'est un mercato décevant?
Oui, alors moi je vais te dire texto, c'est que pas textor, hein, texto, c'est que je suis déçu qu'un club comme l'OM doive passer par l'OL, ouais, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ?
L'OM, c'est pas grave.
Par un club comme l'OL soit obligé de passer par ce marché hivernal pour réussir, ou en tout cas pour sauver sa saison. Que tu sois obligé de tenter des paris, comme le disait Jérôme, ou d'avoir toutes ces interrogations, comme le disaient Jérôme et Jean-Michel, sur ces joueurs-là, de demander à un joueur du Brésil que tu fais venir en plein hiver de s'adapter très rapidement pour te sauver ta saison, alors que ceux qui sont là depuis un an, n'ont pas réussi, ou voire plus, n'ont pas réussi. Donc, franchement, moi, ce qui est perdu, c'est déjà perdu pour l'OL. Ça ne rattrapera pas. Ce marché-là ne va certainement pas rattraper ce qui a été mal fait jusqu'à maintenant. Et donc, oui, moi, ce qui me désole le plus, c'est que l'OL soit obligé. Tu sois obligé de te poser la question : est-ce que le marché hivernal est bon pour l'OL ? Est-ce qu'ils vont s'en sortir maintenant ? Moi, je dis non, parce que l'OL devait faire le travail avant.
Très bien. Donc, vous êtes plutôt déçus tous. On verra quand même si ces recrues déjà jouent ce week-end dans une seconde et si elles donnent satisfaction.
Je peux poser une question pour le rôle de médiateur, là, pour le.
Ah oui, pour Jérôme Le Parrain? Oui.
Pour Jérôme. Oui. Je croyais qu'il était inquiet. Qui paie l'addition du repas, Jérôme?
C'est pas lui, attends.
Jean-Michel Aulas, c'est celui qui a le plus d'oseille.
Et Jean-Michel, il va rendre un service gratuitement. Il va quand même pas payer.
Il t'a déjà payé
un
repas, Jérôme ?
Non, il m'a pas payé un repas.
Non, je te pose pas la question à toi si Jean-Michel te l'a payé.
Ça fait 8 ans qu'il nous. Ça fait 8 ans qu'il
nous. Non, mais attends, mais.
Vous invitez.
Mais attends, Lionel, tu vas pas me donner des leçons. T'as pris tout l'oseille de l'association 98 déjà, donc c'est à toi de me payer.
Allez. Attends, t'as vu ce que tu bouffes ? C'est pour te payer ton repas.
Allez, la suite du multiplex dans une seconde. Au programme et plein d'infos sur la 22e journée de Ligue 1.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h16 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, toujours dans le multiplex Ligue 1. Et oui, on lance les dernières infos avant cette journée, cette 21e journée de Ligue 1 qui va commencer demain après-midi. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Lionel Charbonnier, avec Jean-Louis Tour et bien sûr avec tous nos correspondants des gros matchs. Ils nous donnent des dernières infos, Jean-Louis.
Exactement, on est avec Jean Baumel, Édouard G, Maxime Tilliette et Xavier Grimaud. Maxime, on va vers toi sur la Côte d'Azur pour parler de Nice. Doit-on parler d'effet Didier Digard et est-ce que vous croyez à cet effet sur le long terme ? Parce que le ciel s'éclaircit clairement à Nice, hein, Maxime.
Ouais. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il a tout bon pour le moment, Didier Digard. 4 matchs, 3 victoires face à Montpellier, Lille et Lens. Il y a eu aussi ce 0-0 à Reims, mais Reims qui marche bien depuis plusieurs semaines. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu 3 clean sheets et puis surtout, en fait, qu'il a remobilisé tout un groupe qui était à l'agonie, hein, sous Lucien Favre, il faut le dire. Et ça se voit, dans les courses, l'intensité mise par les joueurs. La preuve avec ce succès à Lens, avec un Francaise qui a reconnu que son équipe avait fait pourtant sa meilleure prestation en matière de course à haute intensité et kilomètres parcourus. Et pourtant, les Lensois ont été battus à la régulière par un OGC Nice qu'on ne reconnaît pas par rapport à celui d'il y a encore quelques semaines.
Jérôme, il y a un effet Digard, ça va tenir ? Ou c'est juste l'électrochoc du changement d'entraîneur ?
Non, mais l'électrochoc, quand ça a lieu, il faut le mettre en avant. On parlait de Montpellier, je parlais de Romain Pitot la dernière fois, ça a jamais pris et pour moi ça montre quand même les compétences d'un entraîneur. Là, on peut reconnaître que Didier a trouvé les mots, a remobilisé ses troupes comme l'a dit Maxime. Ça se traduit forcément dans un premier temps par les résultats. On va pas te dire qu'il a révolutionné le jeu de l'OGC Nice, c'est faux. En si peu de temps, tu peux pas non plus mettre toute ta patte en place. L'aspect technico-tactique, c'est comme ça. Mais par contre, oui, je suis agréablement surpris et je le félicite d'avoir remobilisé ses troupes, d'avoir ces résultats-là, de gagner à Lens. C'est une énorme performance. Ils avaient gagné contre Lille avec beaucoup, beaucoup de réussite, c'est vrai, à domicile. Et même lui, il l'a reconnu, Didier. Mais là, à Lens, le match qu'ils font dans ce contexte-là, pas facile, ils vont s'imposer. Là, il y a encore un match compliqué à Marseille. Franchement, tous les feux sont au vert pour lui. Et si ça continue, il va peut-être falloir le récompenser aussi. Parce que c'est pas pour autant que derrière, tu vas me dire, tiens, on va rechercher tel ou tel nom. Peut-être que la vraie révolution à Nice, c'est l'arrivée de Didier Digard à ce niveau-là.
Toi, tu le garderais même au-delà de l'intérim de cette saison?
Mais si ça continue comme ça, Jean-Louis, pour l'instant, en effet, on met ça sur le compte psychologique. Ouais, ok, mais ça a marché. Il y a des clubs, ça ne marche jamais. Lui, ça a marché. Donc moi, je dis bravo. Vraiment, bravo à ce qu'il met en place.
Jean-Michel ?
Ouais, c'est quand même exceptionnel là, le redressement de cette équipe. Là, bon, il y a pas eu de mercato, il y a pas eu de révolution. Il y a même eu un départ, hein, Tony Truant avec celui de Delors. Et les résultats sont là. Alors, aller gagner à Lens, c'est une véritable performance qui s'ajoute à d'autres bons résultats. Je ne vois pas. Et puis, les adjoints ont le droit à un moment ou un autre de prouver leur valeur.
Bah oui.
Et Didier Digard est en train de le faire. Et ce serait malvenu de lui enlever et de lui retirer tout le mérite qu'il a depuis quelques semaines. Je pense que je ne sais pas s'ils se posent la question, les dirigeants de Nice. J'en sais rien.
Je pense qu'ils commencent à se la poser quand même.
Mais en tout état de cause, moi je me poserais la question de savoir si la meilleure solution ce serait pas de véritablement donner sa chance à Digard.
Il y en a qui ont commencé comme ça. Et regarde Christophe Galtier, qui est une référence aujourd'hui dans le coaching français. Quand il a pris la relève de Alain Perrin à Saint-Étienne, derrière, voilà, c'est parti. Bruno Genesio, pareil, à Lyon. Pourtant, il y a eu pas mal de critiques, c'est vrai. Et il faut bien démarrer au bout d'un moment. C'est un jeune entraîneur, mais n'empêche qu'il est là.
Hein. Oui, il y a un parallèle qui a été fait avec Francaise, parce que c'est Flo Ghisolfi également qui l'avait nommé. Ghisolfi, qui est directeur sportif désormais à Nice. Bon, Francaise, ça a marché, ça a vite pris et ça a duré. Donc, on a forcément fait ce parallèle-là. Et force est de constater que Didier Digard, lui, a su apporter sa patte. Je pense que ça va même au-delà de l'effet psychologique, on voit dans l'intensité, il y a un staff qui a été remodelé, dans les intentions de jeu, il y a eu du changement de système également, et les joueurs le ressentent, et taper, aller gagner Lens sur ses terres, sur son jeu, en allant faire des courses, du pressing, de l'intensité, c'est quand même aussi une belle preuve que pour le moment ça fonctionne, et le club l'a nommé, et n'a pas parlé d'intérim ou de date, là, il était question de le nommer jusqu'à nouvel ordre, et on verra comment ça se passe, c'était ce qui était dit au début, et pour le moment ça se passe plutôt bien.
Léo, tu veux ajouter un mot sur Digard ?
Non, entièrement d'accord avec ce qui a été dit.
Alors dans ce cas, tour des stades, 19h21, 4 infos, et Jérôme, tu nous dis celle que tu retiens à Lille, des infos compo, Jean Baumel, avant d'aller à Rennes demain 21h.
Bonne nouvelle pour les supporters du LOSC, puisque Jonathan David jouera avec une protection, puisqu'il s'est fracturé un petit os au niveau de la main gauche. Hein, il était absent, ça s'est vu en milieu de semaine contre Clermont, parce que sans lui, Lille ne marque pas de but, donc c'est plutôt intéressant. Et l'infirmerie se vide, il n'y a plus que Ounas et Goodmanson qui sont absents.
À Lorient qui reçoit Angers dimanche à 15h, le Brice réclame du temps, vu ce qui s'est passé au Mercato, Xavier Grimaud.
Oui, il se disait pourtant certain d'avoir une équipe aussi forte au 1er février post-mercato. Alors sans Ouattara et surtout sans Terem Mofi, ce n'est pas le cas. Mais pour l'instant, c'est une petite rupture de l'histoire. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais Lorient a quand même recruté des joueurs intéressants. Romain Fèvre, Bamba Dieng. Mais il faudra du temps pour qu'ils intègrent les principes parfaitement intégrés du FC Lorient version Le Brice depuis le début de la saison. Donc c'est presque une deuxième préparation collective et un deuxième championnat qui commence pour les Merlus.
Et oui, parce que Mofi est parti. Mofi, ce sera l'une des attractions de Marseille-Nice dimanche à 20h45, Maxime Tilliette. Maxime sur Mofi, on y revient dans une seconde. On fait un point sur le groupe lyonnais alors. Avant le match à 3, ce sera à 19h demain, Edouard G.
Tout le monde est sur le pont sauf Jefinho, touché à la cheville. Donc ça veut dire que Castello-Lukeba, qui était préservé mercredi, peut redevenir titulaire. Donc il y a l'embarras du choix pour Laurent Blanc, qui, je cite d'ailleurs, a préféré le match de Brest avec un 0-0 du jeu, de la maîtrise des mouvements et des occasions, 27 tirs, 8 cadrés, à la victoire à Ajaccio, 2-0. Match mal maîtrisé, mais deux tirs cadrés de but.
Et donc l'attraction, je le refais, de Marseille-Nice dimanche à 20h45, Maxime Tinet, ce sera Terem Mofi.
Eh ben oui, ça a été l'un des feuilletons de ce mercato hivernal. Il a snobé Marseille et privilégié le projet niçois. Alors forcément, ça a plu aux supporters du gym, moins aux Marseillais qui vont l'attendre sans doute au Vélodrome. En tout cas, Terem Mofi, il n'était pas qualifié pour jouer à Lens. Il va donc faire sa première en rouge et noir au Vélodrome, un stade où il a marqué il y a deux semaines à peine. C'était pour son dernier match, son dernier but avec le FC Lorient.
Jérôme, qu'est-ce que tu retiens de ce tour des stades ?
Lyon, parce que...
L'absence de Jefinho ?
Non, il y a l'absence de Jefinho, mais surtout le discours de Laurent Blanc, qui a préféré le match contre Brest, le 0-0, que la victoire à Ajaccio. Moi, je sais pas, son discours, quand il est arrivé, c'est déjà de prendre des points.
Ah, mais là, il est pas sur le contenu.
Ah, Ah d'accord, donc en fait...
C'est sur le contenu. Oui.
Ah oui, mais parce que les points,
que le contenu,
ça a changé.
C'est accessoire à Lyon, hein. Je pense que les résultats sont quand même primordiaux, hein, il me semble.
Ce qu'il faut savoir...
Avec un bon contenu, tu vas faire de l'Europe.
Hein. Et Edouard,
contenu à 0-0.
Ils sont 10e aujourd'hui, il me semble, hein, Lyon. Hein, donc ils sont un peu largués. Donc quand Jean-Michel Aulas te met en plus une pression, parce que j'ai entendu son discours comme quoi il veut être une place européenne à la fin de l'année, bah il va peut-être...
Non, il n'a pas dit comme ça, il l'a pas dit comme il le dit d'habitude.
D'accord. Ah, d'accord.
Il
n'a pas dit qu'il fallait jouer le titre dans 3-5 ans.
Ouais, c'est ça. Plus à long terme, il a demandé de la patience à tout le monde. Franchement, aujourd'hui, il n'était pas dans les discours inatteignables et inaudibles que peuvent entendre des supporters.
Inaudible, c'est sur RMC, il a précisé.
C'est-à-dire, Jérôme, il va falloir qu'il fasse attention, Lolo, que la prochaine fois, il refasse un 0-0, mais que les joueurs lui disent, ouais, mais coach, on a été vachement bon.
Hein. Exactement. Ah
bah, Allez, messieurs, on revient dans une seconde avec le deuxième tour des stades et nos débats. Lens est-il en train de marquer le pas? Et Rennes, les résultats à domicile peuvent-ils porter Rennes toute la saison? Les deux visages, est-ce que ça peut tenir? À tout de suite.
RMC, 18h20, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h28 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, la dernière demi-heure de Rotten sans flamme de la semaine. Et oui, on est là, on est bien, on est encore là jusqu'à 20h, bien sûr, avec le quiz de Julien Cazard dans 15 minutes. Ne ratez pas ça, un super cadeau à vous faire gagner une semaine de vacances avec le groupe Lagrange. C'est magnifique. Avec Jean-Louis Tour, bien sûr, avec Lionel Charbonnier et Jean-Michel Larquet ce soir. On va continuer notre débrief. Nos briefings de la journée de Ligue 1. Genre.
Exactement, la 22e journée, on est toujours avec Edouard G, Maxime Tilliette, Jean Baumel et Xavier Grimaud. Et Djibo, on vient vers toi. Lens, donc, qui se déplace à Brest dimanche 17h. Les Lensois sont-ils en train de marquer le pas, Djibo?
Cette défaite, mais bon, c'est seulement la deuxième de la saison. C'est vrai que devant ça curbure bien, notamment l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai quand on voit les blessés qui s'accumulent. Hein, Saïd, il touche au genou, donc 6 à 8 semaines d'absence. Claude Maurice, également touché au genou, et il vient opérer. Il y en a pour 6-8 semaines d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'a su à contre-coup. Mais Claude Maurice blessé, confirmation mardi soir. Eh bien, Fulgini, l'ancien Valenciennois, signe, et ça a été une réaction très rapide et intelligente de la part des Lensois, sachant que Claude Maurice est prêté par Nice et il n'y a pas d'option d'achat, option obligatoire pour l'ancien Valenciennois. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et Aïdara, qui est absent aussi pour 3 matchs. Donc voilà, la bonne nouvelle, et on a été un petit peu craintif, c'est peut-être l'un des joueurs qui manquait face à Nice, c'est Salis Abdoul-Samed, parce que, c'est celui qui a remplacé Cheikh Doucouré, et au milieu de terrain, c'est vraiment un sacré joueur, le jeune malien, et, il apporte beaucoup de soutien aussi à Seko Fofana qui peut se projeter avec un peu plus de protection. D'ailleurs, on l'a vu, Jean Onana était moins bon. Donc voilà, il y a un petit peu certainement de fatigue et puis aussi les équipes qui jouent bloc bas. Et après, il faut dire aussi que Nice a fait un très bon match contre Lens. Voilà, des fois, c'est aussi
la pas d'inquiétude, c'est juste un match raté, pas d'inquiétude.
Pas spécialement d'inquiétude.
Écoute, moi, je te dis, vrai pas inquiétude aller jusqu'à là parce que le mot est fort. Mais n'empêche que c'est un bon coup d'arrêt, et le coup d'arrêt, il avait commencé aussi avec ce match nul obtenu dans les dernières minutes à 3. C'était un match, je l'avais dit avant ce match à 3, ce déplacement à 3, c'est un match charnière, parce que ces matchs-là, si tu veux rester en haut du tableau, si tu veux lutter soit dans la course au titre ou la place en Ligue des Champions, ou même en Coupe d'Europe, tout simplement, il faut les gagner, ces matchs-là. Et Lens a failli le perdre. Donc ils l'ont pas perdu, il y a eu match nul, mais ils perdent quand même 2 points sur ce match-là. Et derrière, défaite contre Nice, donc la série elle est pas bonne. Et donc ça a cassé la dynamique. J'espère juste qu'ils vont pas ressasser le passé des autres années en se disant à chaque fois on est bien, et puis dans la dernière ligne droite, et elle est pas encore là la dernière ligne droite, on commence à perdre des points, et puis surtout que ça carbure. Tu parlais, Djibo, de Marseille et Paris, ok, mais derrière, attention, Rennes, Monaco, ils sont pas loin, hein.
C'est vrai qu'on est un peu exigeant avec Lens, on peut le comprendre parce qu'il joue bien depuis le début de saison, mais pour le 12e budget de Ligue 1, bon s'ils finissent 4e, ça sera une saison réussie, il y aura peut-être de la frustration.
Bien sûr, t'as raison.
Accrocher la Ligue des Champions.
Le Racing Club de Lens prouve là dans ces matchs-là un peu compliqués de reprise du mois de janvier avec des terrains difficiles et qu'il n'a pas de marge de sécurité, il faut qu'il soit tous au top pour réussir des, et ils l'ont été pendant 4 ou 5 mois, à notre grande surprise et pour le plus grand bonheur des supporters lensois. Mais incontestablement, c'est pas avec une ou deux individualités qui peuvent faire la différence. Il faut que la totalité du collectif soit au maximum du maximum. Et là, il y a eu un petit grain de sable. Tu l'as dit, Jérôme, à 3, ils s'en sortent à dans les deux dernières ou trois dernières minutes, je crois, hein, à 3.
Ouais, enfin, il y a but de Thomasson, ouais.
Ils égalisent dans les toutes dernières minutes. Là, à Nice, ils perdent normalement le match. Ils le perdent normalement parce qu'il y a un peu moins de fraîcheur physique, un peu moins d'enthousiasme. Et à la sortie, comme ils tombent sur une équipe de Nice qui a fait un bon match, à la sortie, ils perdent pour la première fois de la saison, enfin, à domicile. Mais ils n'ont pas de marge de sécurité. C'est sûr.
Ouais. Yo.
Ouais, je suis d'accord. Après, on parle que de 3, mais il y avait aussi, moi je me souviens du match contre Auxerre où ils gagnent 1-0 péniblement alors que Auxerre prend des tôles contre tout le monde sur penalty en à la 70e, quelque chose comme ça. Strasbourg, il y avait eu un match nul aussi
de partout.
Non, ouais, c'est ça. Donc c'est un coup d'arrêt qui était presque prévisible. Lens a un nouveau statut. Les équipes maintenant attendent ces Lensois. Ils ont vu et ces Lensois doivent faire le jeu. Jouent face à des blocs très regroupés et Lens doit se réinventer. Il faut peut-être un petit peu le temps. Alors ils essaient de passer par les côtés. Ils essaient de. Mais voilà, tout n'est pas.
C'est pour ça qu'il y a eu autant de mouvements aussi, hein. Parce qu'il y a eu pas mal de choses, comme le disait Djibo juste avant. Hein. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu recruter aussi, pour éviter de tomber dans le train-train.
Exactement, se réinventer un nouveau style de jeu aussi, face à des blocs bas. C'est pas facile de se réinventer.
Ouais, bon, après,
mais ce qu'ils
Lionel,
font, c'est exceptionnel quand même.
Les blocs bas, ils sont déjà souvent habitués à jouer comme ça, parce que quand tu as une équipe dominante, il y a beaucoup d'équipes en Ligue 1.
Ils ont été très souvent en contre-attaque, les Lensois.
Il y a des matchs, je suis désolé Lionel, il y a des matchs où automatiquement, quand l'équipe d'en face, elle sent que Lens, c'est une grosse dynamique, c'est fort, que ça contre, des blocs bas, il y en a eu déjà depuis un an, depuis deux ans.
Ouais, mais ils en ont
eu.
Plus, hein.
Oui, mais
plus
en fait, il y a quelque chose, et ça me paraît, c'est humain, et même c'est le sport qui est comme ça. Quand Lens, tu les vois, ils dominent le championnat, du moins dominés, ils sont dans les trois premiers, ils ont perdu qu'une fois avant ce match à Nice. Forcément, la méfiance, d'autant plus, il y a plus d'excitation chez les adversaires.
Cette période, Jérôme, ils étaient déjà l'année dernière. À cette période, ils ont eu des difficultés. Hein,
c'était novembre l'année dernière.
Ouais,
c'était
pendant c'est pas cette période.
C'est novembre, février.
Ouais. Non, mais là, ton championnat, t'as la Coupe du Monde, il est complètement différent. Quand
ah
même.
Oui,
c'est
d'accord.
La même période.
Ah oui, d'accord.
Ils ont du mal à marquer aussi. C'est moins facile pour marquer pour Openda et Sotoka.
Non, la même période. Dans le championnat, tu veux dire, pas la même période dans le calendrier annuellement, c'est ça?
Oui.
Ok,
oui.
Très bien, j'ai compris. On fait un deuxième tour des stades, messieurs, 19h35. On y va avec quatre infos de nouveau. Avec justement à Lens, des prolongations de contrat, ça continue, hein, Thibaut.
Devinez combien de prolongations de contrat depuis le début de saison? 8.
Ah, 8, ah ouais.
Sotoka, Grady, Saïd, Fofana, Aïdara, Machado, Leka, Medina, plus la recrue de Fulgini. Bon, on fait un petit peu un comeback à votre époque, hein, on prolonge et on garde les joueurs le plus longtemps possible au club, parce que la plupart sont quand même âgés. Bon, on blinde aussi certains contrats comme Medina, entre autres, ouais, Fofana, parce que voilà, s'il y a de la vente dans l'air, ça rapportera plus. Mais voilà, ils veulent vraiment garder une ossature et voilà, c'est plutôt intéressant ce que fait le Racing Club de Lens.
À Monaco va à Clermont dimanche à 13h. Et Maxime Tinette, tu voulais nous parler de Caio Henrique, qui ne compte aucune sélection pour l'instant.
Ah, ce qui est fou.
Ouais. Ben ouais, il est performant, hein. on le connaît, cette passe décisive cette saison, 13 la précédente. Alors il a fait ses sélections en jeune avec le Brésil, mais il a jamais été appelé par la Seleção. Il attend aussi avec impatience cet appel, il se sent prêt, il l'a déjà répété. Et si ça ne vient pas, eh bien il se sent prêt également à rejoindre l'Espagne si la Roja l'appelle, parce qu'il a la chance d'avoir la double nationalité. Donc il est prêt, il attend. Il dit que le foot et la vie sont faits d'opportunités, et lui il attendra. Il attend son tour patiemment, mais c'est vrai qu'avec sa patte gauche, il est très méritant.
Alors, Edouard, à Lyon, parle-nous de Jeffinho et de Sarr, donc, qui ont été présentés aujourd'hui, même si Jeffinho ne sera pas là à 3.
Alors, Amin Sarr, jeune Suédois arrivé d'Herenveen. Il était à Malmö il y a 18 mois, passé donc par Herenveen et donc désormais à l'OL. Il s'est présenté. C'est un buteur avec de la puissance, de la vitesse, de la profondeur. Et il veut apporter une nouvelle énergie pour faire tourner les choses. Et comme il l'a promis, ça ne se fera pas en un mois. Et Jeffinho, 23 ans, il vient de Botafogo. Alors, 11 millions pour Amin Sarr et 10 millions pour Jeffinho quand même. Alors lui, il aime rentrer dans l'axe et percuter. J'ai le sens des responsabilités. Il veut aussi amener une nouvelle donne. Je représente le football brésilien fait de sourires et d'enthousiasme et donc il veut à sa manière régénérer le vestiaire.
Et puis à Nantes pour le déplacement à Ajaccio, est-ce qu'on va voir la première titularisation d'Andy Delors, Xavier Grimaud?
Alors c'est assez peu probable parce que Delors est encore à court de rythme. Il n'a pas joué 90 minutes depuis le mois de septembre. Il a joué une quinzaine de minutes seulement face à l'OM. Camboiré a la volonté d'être prudent parce que Nantes en a besoin évidemment. C'est certain que Delors va devoir se remettre au niveau très vite parce que Nantes est la 18e attaque. Seul Auxerre, Ajaccio et bien sûr Angers, trois relégables, font pire que les Nantais devant le but.
Et Xavier, après ce tour des stades, on va rester avec toi pour parler de Rennes. Rennes qui reçoit Lille, c'est demain 21h, c'est la deuxième affiche du week-end de Ligue 1, la deuxième grosse avec Marseille-Nice. Les résultats à domicile vont-ils pouvoir porter Rennes toute la saison? Parce que c'est impressionnant quand même le bilan à la maison.
Oui, la série à la maison, elle est quand même remarquable. C'est la meilleure équipe à domicile depuis la défaite de Lens en milieu de semaine. Que des victoires, 10 victoires de suite depuis la défaite lors de la première journée au Roazhon Park. C'était face à Lorient contre le cours du jeu, mais défaite quand même. Il y a une impression de confiance qui est un peu totale quand les Rennais jouent à domicile. Alors qu'on peut tempérer éventuellement en regardant que les adversaires étaient plutôt des adversaires de milieu de tableau qui sont venus sur la phase aller au Roazhon Park. Il y a que Paris qui est venu parmi les gros, mais on se souvient ce que ça a donné. Paris a perdu. Alors Lille samedi, ce sera un gros morceau évidemment, l'une des deux équipes préférées de Genesio, Gibo, ces deux équipes préférées, c'est Lille et c'est Lens. Tu vois, donc il a un petit penchant pour le Nord. Genesio qui prédit un très beau match à voir, même s'il y a encore une pléiade de blessés à Rennes et que les deux recrues du dernier jour du mercato seront qualifiées. Reste que c'est quand même assez incompréhensible les deux visages de l'équipe bretonne. Il y a eu trois défaites de suite chez des mal classés depuis la reprise du championnat. Ouais. Il y aura un gros test le week-end prochain à Toulouse. Est-ce que ça peut suffire? C'est l'équipe qui a le plus de différence entre les points pris à domicile et les points à l'extérieur de toutes les équipes qui jouent l'Europe. Ça peut peut-être coincer au bout d'un moment.
Bah déjà les matchs à la maison, quand tu les gères bien, ça te garantit une bonne place au classement. Ça c'est la réalité. C'est toutes les saisons, c'est comme ça. Là-bas, c'est déjà de bien négocier des matchs à domicile. Ça ils le font bien. Ils ont la clé. Ils trouvent souvent ils posent de gros problèmes aux équipes qui viennent au Roazhon Park. Donc ça, il y a pas de problème. Et là demain c'est un match du moins dimanche c'est un match
c'est demain
un match au Roazhon Park, donc là-dessus il y aura pas de souci pour l'enthousiasme, l'engouement et puis être performant, et ça j'y crois. Et puis en plus il y a quand même ils se sont bien fait bouger au match aller à Lille, je me souviens de ce match Lille-Rennes, donc automatique.
Ouais.
Et puis bon, c'était largement mérité pour les Lillois qui auraient dû s'imposer sur ce match-là. Donc automatiquement, il y aura pas un sentiment de revanche parce qu'il y a pas de revanche dans un championnat comme ça sur les matchs retour. Mais ils vont se méfier d'autant plus. Donc j'ai pas trop de mal à sentir Rennes gagner demain. Par contre. Oui, le match à Toulouse, t'as raison de le dire, Xavier. Je crois que ils ont un gros problème, c'est comment ils gèrent ces matchs à l'extérieur. Ils n'arrivent pas à élever leur niveau. C'est plus dur de gagner un match à l'extérieur, ça on le sait tous, que ça soit à Lorient, à Toulouse ou à Marseille ou à Paris. Mais là, quand même, il y a trop de manque du côté de Bruno Genesio et de son équipe. Donc, il va falloir trouver la clé et le remède pour entamer une bonne série. Parce qu'il n'y a qu'en faisant une grande série qu'ils arriveront à jouer la Ligue des Champions.
Lionel, qu'est-ce que t'en penses? Comment t'expliques, toi, ces deux visages?
j'ai du mal. Je suis comme Jérôme, j'ai du mal à me l'expliquer. Être aussi bon à la maison devant son public et puis à l'extérieur être pratiquement liquéfié. Alors ils ont quand même pas mal d'occasions, mais j'ai l'impression que les buteurs à l'extérieur n'ont pas le même mental de excusez-moi l'expression, mais de tueur pour tuer le match et tout ça à l'extérieur que devant leur public. Les occasions, il y en a. C'est pas une question de jeu, je trouve. C'est une question de finition. Et ça, pourquoi ils arrivent à tuer le match à la maison qui n'arrive pas à le faire à l'extérieur? À part le problème psychologique, je ne vois pas. Peut-être que Jean-Michel, Jérôme, vous avez plus de solutions.
Je pense que l'enthousiasme, l'enthousiasme rennais et les qualités des rennais, elles se situent surtout au milieu et devant lorsqu'il y avait Terrier. Je pense que derrière, c'est un petit peu moins performant. Et je pense que c'est là, parce qu'ils prennent, ils prennent quand même beaucoup de buts à l'extérieur. Beaucoup, beaucoup, eh trop
oui,
de buts.
Trop.
Et oui, quand s'il faut que tu marques 3 buts à l'extérieur pour gagner les matchs, tu vas pas en gagner beaucoup des matchs. Et c'est ce qui se passe.
Mmh. Allez, messieurs, et on vous laisse.
Je pense que leur problème, il est là. Il est là. C'est que la solidité défensive du Stade Rennais est à améliorer très sérieusement.
Merci, messieurs. Merci à Jean Baumel, Edouard.
Bon week-end à tous.
Salut, les gars.
Salut, les mecs.
Salut, Gibo.
Et Jean Baumel, et donc Xavier Grimaud. Maxime, on te laisse d'ailleurs filer au basket. Puisqu'en ce moment, il y a le match de Euroleague entre Monaco et le Real. On te retrouvera dans l'After Live juste après 20h, avec en plus une grande soirée Ligue 2, parce que ce soir, il n'y a pas de Ligue 1. C'est demain le premier match à 17h avec PSG Toulouse, et ça se termine dimanche 20h45 pour Marseille-Nice. RMC Seul Radio va vous proposer tous ces matchs de Ligue 1 en intégralité, évidemment. Dans une seconde, l'affrontement de fin de semaine. Savoir si Jean-Michel ou Jérôme vont partir de mauvaise humeur ou non.
Ça a été bon cette semaine,
Jérôme. Il y a un mois, il a été catastrophique. Mais allez, à tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.